Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Laissez-moi vous présenter Luce et Virginie, deux amies aux vies différentes mais dont les chemins de maternité vont se croiser, que dis-je, s'imbriquer. Virginie accouche quelques semaines avant Luce de son 3e bébé et pour elle l'allaitement a un goût de déjà-vu. On lui explique qu'elle n'a pas assez de lait pour nourrir sa fille. Et puis c'est le tour de Luce d'entrer dans la danse, elle souhaite plus que tout allaiter, mais son bébé ne parvient pas à se nourrir au sein. Très vite, elle demande un tire-lait et parvient à nourrir son bébé à l'aide d'un biberon. Ces deux trajectoires auraient pu rester sur des lignes parallèles, l'allaitement pas comme on l'imaginait, mais c'était sans compter sur l'hyperlactation de Luce. Et pas n'importe laquelle, Luce tire quotidiennement des quantités astronomiques de lait et décide d'en faire profiter les autres. Le lactarium, oui, mais aussi la fille de Virginie, faisant de Naïs et Cléo des sœurs de lait et scellant définitivement cette amitié si précieuse. Pour cette première interview à 3 voix, j'ai donc décidé de les interroger toutes les deux en même temps. Place à l'histoire de Cléo, Naïs, Luce et Virginie. Bonjour Virginie, bonjour Luce, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour.
Bonjour Charlotte.
Alors aujourd'hui, on est 3 au micro de Milkshaker. C'est Virginie et Luce qui m'ont contactée. Donc en fait, si mon souvenir est bon, c'est Virginie qui m'a contactée en premier, c'est ça.
Oui.
Elles avaient envie de me raconter leur histoire assez incroyable et j'ai été tout de suite conquise par le récit. Alors on a une chouchoute qui est à côté qui va nous raconter aussi 2-3 trucs au fur et à mesure de l'enregistrement. Parce que vous allez comprendre très vite pourquoi c'est compliqué d'avoir prévu cet enregistrement. Virginie et Luce sont deux histoires qui sont intriquement liées, mais qu'elles vont nous raconter. Alors, est-ce que on peut commencer par exemple par Virginie ? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qui sont tes enfants ?
Oui, alors moi je suis Virginie, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants. Un grand qui a 12 ans, c'est mon fils adoptif. J'ai un petit garçon qui vient d'avoir 3 ans, que j'ai allaité jusqu'à ses 4 mois. Et j'ai Cléo, qui a 6 mois et demi, et que j'allaite encore un peu.
Ok, merci Virginie. Et toi, Luce ?
Moi, je m'appelle Luce, j'ai 36 ans. En fait, je suis veuve, et peu de temps après, j'ai eu Naïs, donc qui va avoir très bientôt 6 mois. Et que je nourris encore et que j'ai nourri exclusivement.
Alors, quel lien est-ce que vous avez toutes les deux ? Qu'est-ce qui vous unit ?
On s'est connus par le biais de notre travail. Et puis, on a noué une grosse, grosse amitié. Et donc, Virginie a été très présente pour moi quand j'ai eu des moments très difficiles. Voilà, un peu avant la naissance de Naïs. Et on s'est retrouvés On s'est retrouvés enceintes avec 7 jours de différence sur la date du terme.
D'accord, ok. Donc, on est ici pour parler allaitement, les filles. Vos histoires sont intriquement liées parce que mon petit doigt me dit que l'une de vous a du lait en quantité extrêmement abondante et l'autre en quantité moins abondante. Et alors voilà, je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est passé. Vous avez accouché à peu de temps d'écart, j'imagine. Comment ça s'est lancé, vos allaitements? Virginie, toi, comment ça a démarré?
En fait, j'ai déjà eu un problème de lactation pour Noah, donc mon premier fils. Enfin, problème. C'est, j'avais pas, je trouvais que j'avais pas suffisamment de lait. Et puis c'était mon premier bébé. Je connaissais pas, je m'étais pas assez renseignée. Et pourtant, je pensais, hein. Je voulais un accouchement sans péridurale, etc. Mais ça a pas pu se faire. J'avais fissuré la poche des os, au bout de 3 jours, il venait pas. Mais pendant tout ce temps-là, j'étais sans péridurale, tout ça. Enfin, la maternité m'avait suivi. Au bout de 3 jours, ils m'ont dit, écoutez, ça fait 3 jours. Je dis, bon, bah, ok. Donc, du coup, péri, perte d'ocytocine, au taquet, enfin, voilà. Noah est né. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit à la maternité pour pas de montée de lait. Je sors. Après, on me dit, vous inquiétez pas, ça viendra à la maison. Ok,
Ok.
je continue, pas de problème. Je mets bébé au sein dès qu'il réclame. Je complète parce qu'il perdait du poids et que bah, fallait bien que je trouve, même si je le mettais au sein régulièrement et à chaque fois, et rien, j'ai rencontré un acupuncteur sage-femme qui nous suit encore maintenant. Je suis retournée le voir pour qu'il puisse m'aider. Notre sage-femme actuelle aussi, avec l'homéopathie, etc. Rien, toujours pas de montée de lait. J'avais du lait, mais je n'avais pas cette sensation de sein hyper tendu. Je connais pas, je ne sais pas ce que c'est.
Et du coup, Noah perdait du poids.
Noah a perdu du poids à la maternité, et puis après, quand on voit qu'au bout de 3-4 jours, ben, il prend pas de poids, les médecins. Enfin, les médecins, les sages-femmes, les puères, etc., me disent, bah, il faut compléter, on n'a pas le choix, de toute façon. Puis je fais des gros bébés aussi, donc tout de suite, 10%, ça se voit. Enfin, c'est impressionnant dès le départ, en fait. Donc c'est tout. Donc, bon, j'en avais fait mon lot, hein, je me suis dit, je vais faire du mixte. Alors j'ai fait du mixte. J'ai repris le
Ok.
boulot, m'ont laissé couper, j'avais plus rien. Donc je me suis dit, bah,
D'accord.
c'est tout. Et donc, ensuite, quand je suis tombée enceinte de Cléo, je me suis remise dedans à fond. Je lui dis, cette fois-ci, je m'accroche,
C'est la
je
bonne.
lâche pas, la tête dans le guidon, je lis les bouquins, enfin, tous les livres qu'on peut conseiller pour l'allaitement, sur les réseaux sociaux, je lis, je m'informe à fond, je suis au taquet. Et ben, pareil. J'ai fait un accouchement sans péridurale, hein, je l'ai fait. Je me suis dit, parce qu'avec l'ocytocine, on nous avait dit que, enfin, j'avais lu que. Etc., la péridurale et tout, j'ai fait 100% naturel et rien, toujours pas de montée de lait. Donc,
D'accord. Et alors, du coup, est-ce que quelqu'un à un moment a posé un diagnostic pour toi? Est-ce que c'est une vraie insuffisance de lait de ton côté?
alors, me dire que c'est. Enfin, les médecins que j'ai rencontrés, notre sage-femme, on a fait tout ce qu'on pouvait, de l'homéopathie, les tisanes. En plus, je déteste tout ce qui est fenouil et tout, Annie. J'aime pas ça, mais vraiment. Non, mais c'est l'horreur. Je bois les tisanes, je fais tout. Enfin, et j'ai demandé à rencontrer une IBCLC qu'on a près de chez nous. Je suis désolée, mais elle m'a pas trop aidée. Elle a même pas vu ma fille, elle me l'a pas mise, enfin, elle l'a pas vue au sein, rien. On a juste échangé 2 3 mots et puis elle m'a dit, bah c'est tout. Après les tétés, il faut stimuler au tire-lait. Bah ouais, ok, mais ça j'ai déjà fait. Et ça n'a rien donné, quoi.
Et malgré tout, voilà, ça ne vient pas, quoi. Il n'y a pas la quantité nécessaire. Et donc, du coup, Cléo, de la même façon que Noah, perdait du poids?
Cléo, elle a stagné. Elle n'a pas perdu, elle a stagné. Cléo, je la mettais au
D'accord.
sein. Alors, elle dort. Elle a des grosses périodes de sommeil déjà. Ça m'aide pas pour les tétés. Et je suis sortie le lundi de la mat et je l'ai allaitée. Elle tétait pas trop le matin, mais beaucoup de ouais, 14h jusque 23h, elle me lâchait pas le sein. Bon, je me suis dit, allez, on y va, quoi. C'est qu'elle a besoin et tout. Et en fait, 4 jours après, je retourne voir la sage-femme et en fait, elle n'avait pas bougé, pas un gramme. Le poids identique. Et là, elle m'a dit, c'est pas.
Donc malgré le fait qu'elle tète toute la journée, est-ce que
Ouais.
quelqu'un, parce que tu vois, tu t'étais renseignée, tu sais que si jamais le bébé a un problème de succion, ça peut affecter la montée de lait. Est-ce que quelqu'un a vérifié la succion de Cléo?
Non, bah déjà par chez nous, on n'a pas ce genre de spécialiste. Après, je pense vraiment qu'elle, je pense qu'elle a un problème de frein, mais c'est juste. Mais j'ai pas de crevasse, j'ai pas mal, j'ai pas de douleur particulière. Moi, en allaitant, mes tétons vont très bien, mais
Ok,
voilà.
donc on sait pas trop le fin mot de cette histoire, mais en tout cas, de ton côté, les quantités de lait, pour une raison qui n'est pas purement définie, ne sont pas, ne semblent pas suffisantes pour nourrir ton bébé, c'est ça?
Non, c'est pas assez clair, c'est pas suffisant. On nous dit toujours que la qualité, c'est pas le problème. Après, en termes de quantité, si j'ai fait des expressions au tire-lait, si j'ai 50 millilitres, je suis heureuse, hein, c'est champagne. Hein. J'ai rien. Enfin, j'ai rien. J'ai pas suffisamment en tout cas.
Ok. Et à quel point ce projet d'allaitement, il était important pour toi?
Bah, ça, moi, ça me parle. C'est pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, à aucun moment, je me suis dit, je vais leur donner le biberon dès la naissance. C'était pas nécessaire. Ça me paraissait pas. Je me suis dit, mon corps il est fait pour en fait. Donc, on verra bien, advienne que pourra. Mais à aucun moment, je m'étais dit, ça va pas fonctionner.
Et alors, c'est là finalement qu'intervient Luce, qui va nous raconter le début de son histoire, elle, d'allaitement après. Parce que si on est ensemble toutes les trois aujourd'hui, en fait, c'est parce que c'est Luce en partie qui nourrit Cléo, c'est ça?
Oui.
Alors, Luce, raconte-nous, parce que donc, vous avez chacune eu un bébé quasiment dans le même timing. Et donc, c'est toi qui nourris en partie Cléo. Mais qui nourrit aussi ton bébé, comment ça se passe? Comment ça a été pour toi les démarrages d'allaitement?
Donc j'ai accouché 6 jours après le terme, donc parce que j'ai été déclenchée. J'ai un accouchement qui a duré 2 jours et demi à peu près. Parce qu'au départ, je voulais accoucher aussi sans péri. Donc, au bout de plus de 24 heures de contraction déclenchée, j'ai lâché le morceau parce que j'en pouvais plus. Et donc, ma fille est née au forceps avec une belle épisio et j'ai fait une hémorragie suite à l'accouchement. Voilà. Donc, je suis passée pas très loin de la transfusion. Et ça me tenait, alors n'ayant déjà pas eu l'accouchement que je voulais, ça me tenait vraiment à cœur de nourrir ma fille. Et c'est quelque chose que j'avais pas envisagé de lui donner le biberon. Alors juste à la maternité, tu sais, les nourettes là qui te donnent, je m'étais dit s'il faut lui donner ça pour qu'elle reprenne vite du poids et que je sorte le plus vite possible, j'étais prête à le faire en fait. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et donc suite à la naissance, on me la pose pour la tétée d'accueil. Donc je lui fais la tétée d'accueil. Et déjà là, je me dis aïe 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 aïe, aïe, ça pique. Mais ça pique vraiment quoi. Et je me dis ah, ça fait mal quand même. Alors bon, ça va se calmer après, ok. Et puis comme je fais mon hémorragie, donc on me passe un produit et je peux pas la garder au sein. Donc j'ai eu plus de 10 heures où j'ai pas pu la mettre au sein juste après la naissance.
T'avais pas le droit à cause du produit qu'on t'avait injecté, c'est ça?
Oui, en fait j'avais mon utérus qui se rétractait pas bien et comme je perdais vraiment beaucoup beaucoup de sang, ils m'ont injecté quelque chose qui est incompatible avec l'allaitement et ça dure 6 heures, c'est 6 heures de perfusion et derrière t'as encore 3 ou 4 heures où tu peux pas mettre le bébé au sein.
D'accord.
Donc c'est tout, je remonte en chambre après 10 heures après avoir accouché. Avec mon bébé qui dort, tout va bien. Et puis bah, donc le soir, elle se réveille et elle réclame à téter. Donc je me dis bon, bah, je sors le sein de la tétée d'accueil et là je me dis ah, j'avais des brûlures. J'avais le sein qui était le téton qui était brûlé. En fait, j'avais des marques de brûlures. Je me dis bon, bah, c'est pas grave, je vais la mettre à l'autre sein. Et elle n'arrivait pas à attraper le téton. Donc je me dis bon.
Donc les auxiliaires puères viennent, t'accompagnent. Il y en a une qui me dit, bon, on va vous mettre un bout de sein, comme ça elle arrivera à attraper. Donc effectivement, elle me met le bout de sein, Naïs tête. Et elle me dit, bah, vous la laissez 20 minutes au sein comme ça et ça va bien se passer. Donc, c'est ce que je fais. Bon, c'est un peu douloureux, mais je me dis, bon, c'est le début, c'est normal. Et au bout de 20 minutes, je la vois qui fait la grimace et là, je me dis, bon. Et je la retire et là, en fait, elle tétait du sang. Elle me faisait un suçon sur le sein droit. Donc là, je me dis, mais on n'est pas dans le... Parce que suçon sur le sein droit et brûlure sur le sein gauche et puis vraiment douloureux. Bon. Donc, c'est tout. Je la complète avec les nourettes de la maternité. Et puis, j'essaye de la remettre une paire de fois au sein, mais ça me fait un mal de chien. Je me dis, je vais jamais y arriver. Mais je voulais la nourrir et tout ça. Et donc, je leur réclame le tire-lait. Donc, j'ai accouché le vendredi à 1h30 du matin et j'ai eu mon tire-lait le samedi soir à 23h. Donc, coup de maman qui utilisait le tire-lait. Et donc, ouais. Je fais ma montée de lait au tire-lait. Je fais ma montée de lait au tire-lait, donc je commence, on va dire, le dimanche à minuit. Et, donc, je lui donne du lait. Au début, je tirais 3 fois par jour. Il y a une auxiliaire père qui me dit, oh, vous devriez tirer à chaque fois qu'elle réclame à manger, ça vous aiderait à sortir plus. Donc, je n'avais pas envisagé l'option tire-lait, donc n'y connaissant rien, je dis, on y va. Quand je sors de la maternité, donc c'était le mardi, donc ça faisait 3 jours que je faisais du tire-lait, je sortais entre 80 et 100 millilitres par tirage. Donc ce qui apparemment est déjà plus qu'honorable. Ben, je nourrissais à la maternité, le dernier jour, je nourrissais Naïs sans complément. C'est juste que j'avais pas d'avance. Donc okay. C'est tout. Donc ma copine vient me rechercher à la maternité alors qu'elle a accouché 3 semaines avant.
Virginie vient te chercher à la maternité.
Voilà, Virginie vient me chercher à la maternité, on va à la pharmacie chercher le tire-lait, sauf qu'ils avaient le tire-lait, c'est un Medela, la sage-femme m'avait prescrit un Medela Symphonie, ils l'ont pas en stock, donc ils me prêtent un qui-tête en attendant, donc on est mardi, et oui en fait qui-tête pas, mais ça c'est une autre histoire.
qui-tête pas, ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, il me prête le qui-tête en me disant, donc on est mardi, en me disant, on aura votre tire-lait vendredi, d'accord. Donc, je rentre à la maison, je fais mon premier tirage et là, je sors 15 millilitres.
Aïe, la douche froide.
Voilà, et deuxième tirage, 20 millilitres. Et là, je me dis, mon Dieu. Donc là, j'étais à quoi, 5 tirages par jour. Et je me dis, c'est pas possible. Donc, il était 3h30 du matin et je me dis, je vais pas y arriver, quoi. Parce que si je sors si peu, bah, ma montée de lait, déjà, elle va être foutue en l'air. Et puis, ça me faisait souffrir, en fait. Donc, j'envoie un message à Virginie qui, miraculeusement, ne dormait pas. Et me voilà ma première nuit à la maison à 3h30 du matin à mettre ma fille dans le cosy, à aller chez Virginie chercher le tire-lait qu'elle avait en location pour qu'elle me le prête en attendant.
D'accord, c'est un travail d'équipe. Hein.
Ah, puis je sais pas pourquoi elle était pas réveillée, elle a dû sentir qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle était, si t'étais réveillée, voilà, j'ai eu la chance que t'étais réveillée. Enfin bref. Donc et là, l'aventure tire-lait commence et donc j'avais du lait pas mal. Et petit à petit, en fait, les petites bouteilles de, tu sais, 150 millilitres là, qui te fournissent dans les kits, eh ben, je les remplis.
Elle déborde.
Ah bah oui, parce qu'en plus, la nuit, tu t'endors en fait. Il y a des moments tu t'endors en tirant ton lait, parce que comme quand t'as un bébé tête, tu as un sentiment de t'es fatigué, t'y arrives pas, il y a des moments tu t'endors. Et il y a une paire de fois, je me suis réveillée, ça débordait, je me dis, oh mon Dieu. Donc me voilà à commander des bouteilles de 250 millilitres, etc., j'avais quand même pris rendez-vous chez l'IBCLC le lendemain de ma sortie de maternité pour lui expliquer mon problème, que j'arrivais pas à mettre Naïs au sein, etc. Donc en fait, Naïs, quand je la mettais au sein, ça faisait jamais ventouse. Il y avait toujours une fuite de lait quelque part. On m'a dit, bah non, il n'y a pas de frein de langue. Après, je pense qu'il y a un frein, mais c'est pas forcément un frein de langue, mais voilà, c'est tout. Voilà. Mais après, j'avais tellement mal que je me suis fait un peu une raison. Et en plus, elle a eu une belle mycose, un beau muguet. Donc, j'avais déjà une grosse montée de lait à gérer. Si en plus, il avait fallu que je la mette au sein avec son muguet et que derrière, je m'étais tapé une candidose, j'avoue que j'ai préféré écarter le problème.
Ça t'a découragé. Tu t'es dit, le tire-lait, ça fonctionne. J'arrive à tirer. Je vais la nourrir comme ça.
Bah, puis, c'était déjà tellement d'énergie parce qu'en fait, la montée de lait, une fois qu'elle a été lancée, moi, à la fin de ma grossesse, j'étais pas mal malade et je mangeais plus des masses. Et je suis rentrée de la maternité en me retrouvant à avoir faim tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ma montée de lait était... Je suis sortie de la maternité, je sortais peut-être 800 millilitres par jour et je me suis retrouvée en 15 jours de temps à donner 2 litres et demi de lait par jour, quoi. Donc, un jour, j'appelle ma sage-femme, j'appelle ma sage-femme Charline. Je lui dis, Charline, j'en peux plus. Je dis, j'ai l'impression qu'il faut que tout le temps que je tire, j'ai les seins durs comme de la brique, ça me fait mal. Mais je me dis que si je tire trop, ça va encore augmenter le truc. Elle me dit, ah oui, il faut que tu arrives à canaliser. Donc, faut pas que tu aies plus de 4 heures entre chaque tirage, mais pas moins de 2 heures.
Oui, d'accord.
Donc et là elle me dit viens on va enfin elle me prescrit de l'homéopathie donc les trucs pour les œdèmes etc bon je me suis tapé je ne sais combien d'engorgements enfin voilà
la machine s'est emballée.
Ah ben c'était en fait il y a eu en 10 jours de temps je me suis retrouvée à mettre mon réveil toutes les 3 heures pour faire un tirage de au début je faisais des tirages de 15 minutes et je me suis retrouvée à faire des tirages de 30 minutes toutes les 3 heures pour pouvoir sortir ce que j'avais à sortir parce que et même en faisant ça quand j'avais fini de tirer mon lait j'avais encore les seins qui goûtaient.
Waouh.
Ouais.
Donc, c'est... du coup, tu tirais les 2 seins toutes les 3 heures pendant 30 minutes.
Ouais.
Et t'avais combien de litres de lait à chaque tirage ?
Mais en fait, j'avais... au tout début, quand... Il y a Cléo qui nous accompagne. Ouais. Quand je faisais les tirages toutes les 3 heures, j'avais entre 350 et 450 millilitres. Donc, ça dépendait. Il y avait des tirages. Tu vois, par exemple, le tirage, quand tu te levais le matin après avoir dormi, que t'avais bien dormi, je tirais plus. Les tirages de fin de journée, je pouvais tirer un petit peu moins. En moyenne, sur les journées, je tapais du 2 litres, 2 litres et demi, quoi.
Oui,
sur 24 heures, 2 litres, 2 litres et demi.
Ce qui était finalement trop pour ton bébé.
Ah ben oui, alors malgré que j'ai un bébé qui boit beaucoup, hein, moi Naïs, elle boit quasiment 1 litre de lait par jour, hein, quand Cléo, elle en boit peut-être 600 ou 700, mais malgré ça, oui, j'en avais trop, et alors j'avais pas du tout anticipé que j'allais avoir trop de lait, donc là, ma copine, elle me dit, mais faut que tu trouves des sachets à congeler, pour congeler ton lait, pour le garder, comme ça quand tu reprendras le boulot, c'est super, t'auras de quoi compléter, ça va être top, c'est bien, tu vas avoir de quoi faire de l'avance. Donc, on investit dans des sachets de lait. Et puis, c'est à ce moment-là qu'en fait, sachant que Virginie n'avait pas assez de lait, je lui dis, écoute, si tu veux, je te complète Cléo. Je dis, moi, de toute façon, ce lait-là, je dis, même si je le congèle, j'en aurai toujours de trop. Toujours, toujours de trop. Donc, on a monté un peu notre petite entreprise. Bon, sous couvert, hein, notre sage-femme, elle m'a fait faire des tests virologiques, etc.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous vous étiez renseigné sur comment ça pouvait se faire de se donner du lait comme ça entre amis ? Est-ce qu'il y avait des tests à faire avant ? Est-ce qu'il y a des choses à respecter ?
Mais après, c'est une histoire de confiance aussi parce que... officiellement, le don de lait comme ça, particulier à particulier, t'es pas censé faire ça. Après, moi, Virginie, je lui fais entièrement confiance. C'est d'ailleurs elle qui me garde ma fille. Mais je me voyais pas en fait avoir des litres et des litres de lait et laisser ma copine galérer à se battre avec son homéo, etc. Moi, je me battais pour en avoir moins. Et elle se battait pour en avoir plus. Donc, je me dis, bah attends, c'est quand même le ciel qui... Enfin, ça marche à l'envers, en fait. Ça marche à l'envers, en fait. Je peux pas... Je me voyais mal lui dire, va t'acheter une boîte de lait. Et puis, alors que moi, j'avais des litres et des litres. Pour te dire, à la fin de mon premier mois à la maison, je congelais 8 litres de lait par semaine.
Et alors, est-ce que tu as pensé au don au lactarium
alors,
à ce moment-là aussi?
Ben oui. Alors en fait, j'ai pensé au don pour le lactarium à partir du moment où j'ai commencé à ne plus avoir de place dans mon congélateur. C'est un truc.
Donc, c'est-à-dire que tu tirais ton lait. Donc tous les bébés sont nourris du coup avec un contenant biberon, hein, c'est ça?
Oui. Naïs, c'est biberon, ouais, biberon exclusivement. Et du coup, Cléo, dans le mixte, elle faisait du sein et du biberon, ça posait pas de problème. Il y avait pas de préférence.
Donc tu tires ton lait, tu nourris ta fille au biberon, tu complètes la fille de ta meilleure amie.
C'est ça.
Et encore comme ça, tu congèles 8 litres de lait?
Minimum par semaine, ouais.
Waouh! Incroyable.
Donc en fait, moi, je me relevais la nuit pour manger parce que j'avais faim tout le temps.
Bah oui.
En 3 semaines de temps, je remettais mes fringues d'avant grossesse. Hein. Alors tant que je travaillais pas, c'était pas un souci parce que je pouvais me reposer et puis j'arrivais. Voilà. Mais une fois que j'ai eu repris le boulot, j'ai commencé à perdre trop.
Jusqu'à ce que tu reprennes le boulot, c'était pas un problème parce que tu pouvais te reposer.
Voilà, et puis de devoir me relever la nuit, de manger, tout ça, c'était pas un souci. Mais bon, malgré tout, ça restait quand même un problème parce que je congelais tellement de lait qu'en fait, j'avais plus de place. Mais plus de place du tout. Et pourtant, j'ai un grand congélateur, voilà, j'avais plus de place. Donc, j'avais entendu parler des dons de lait au lactarium. Donc, nous, on a un lactarium à Reims, là, mais qui reçoit pas de dons externes. Ils reçoivent que les dons des mamans qui ont congelé leur lait pour leur bébé qui sont en néonate, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans les lactariums, il y a une bonne partie de lait de lactarium qui vient aussi des dons internes en fait aux hôpitaux. C'est-à-dire que c'est des mamans qui accouchent de bébés prématurés qui mettent en place leur lactation, mais leur lactation elle est souvent trop importante entre guillemets par rapport aux besoins de ce bébé prématuré. Donc en fait, elles donnent au lactarium ce qu'elles tirent pendant la journée. Donc ce lactarium-là n'acceptait que ça.
Voilà, donc c'est tout, j'ai appelé Nancy, parce que Nancy, c'est à 2 heures environ de chez nous, ouais. Je les appelle et je leur demande comment ça se passe, donc ils m'expliquent, ils me disent, on vous fournit le matériel, donc des biberons stérilisés, enfin des biberons, des contenants en fait pour congeler votre lait, des étiquettes, du matériel pour stériliser vos tétrelles et le matériel, tout ce qui vous sert à recueillir votre lait. Et nous, on vous envoie des ordonnances. Enfin, il y a un petit dossier à compléter. Donc, tu as des analyses de sang à faire. Enfin, ce que nous avait déjà fait faire la sage-femme au final. Mais bon, comme c'était non officiel, voilà. Et on vient collecter tous les 3 mois.
Bon. Mais 3 mois, c'est énorme pour toi, non?
Ben oui, parce que déjà, elle me dit, on vous envoie des biberons, quelle contenance? Parce qu'il y a 130 millilitres et 240. Et moi, je lui dis, moi, il me faut des 240. Ah, mais vous savez, si je dis, je vous en ferai 2 minimum par tirage. J'en ferai au moins 2 à chaque fois. Et moi, il y a des matins, je me levais, je tirais 820 millilitres. Il y a des matins, je me levais, je tirais 820 millilitres. Et là, je me dis... c'est pas possible, quoi. Je peux pas garder tout ça, quoi. Donc, voilà. Donc, elle me dit... Donc, ça, c'est mon petit poussin.
Voilà. On a Naïs qui nous a rejoint, qui est sortie de la sieste. Mais attends, est-ce qu'à un moment, tu te dis pas, mais il faut absolument que j'arrive à réguler cette lactation parce que c'est l'enfer, il y en a trop?
Ah ben si, parce que déjà, ça me demandait tellement d'énergie... rien que la production en elle-même me demandait énormément d'énergie... Le fait de se relever, parce que se relever pour le tire-lait, c'est un fait. Mais quand ton bébé, il a moins d'un mois, tu te relèves aussi pour ses biberons.
Ah oui.
Moi, je me suis retrouvée dans des positions de tirage, donnage de biberon, rechargement du biberon pour redonner en même temps que ça terminait de tirer. En passer des meilleurs. Et je me dis, il faut que j'arrête. Alors, on me dit, tout le monde te dit, ça va se réguler. Après 3 mois, ça va se réguler. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment, ça a commencé à... Ça ne baissait pas, mais j'ai commencé à pouvoir espacer mes tirages. Donc, vers fin octobre, je faisais 5 tirages par jour en tirant toujours autant, 2 litres, mais je faisais 5 tirages par jour.
Donc là, elles avaient quel âge?
Fin octobre, elles avaient 2 mois et demi. Moi, elle avait 2 mois et demi et Cléo 3 mois. Donc, j'étais descendue à 5 tirages et j'avais ma visite postnatale. Et donc, comme j'avais eu un accouchement un peu compliqué et que mon allaitement ne se réglait pas, parce que c'est pareil, 5 tirages, mais 5 tirages au boulot, c'est compliqué, même si tu as des plages horaires, tu as le droit qu'à 2 plages horaires. Donc, j'avais redemandé un peu de temps au gynécologue qui me l'a accordé. Merci beaucoup. Et quand j'ai repris le boulot, j'étais plus qu'à 3 tirages par jour. Donc là, 3 tirages, j'ai réussi à descendre un petit peu. J'étais entre 1,8 litre et 1,9 litre par jour. Donc, à coup d'homéopathie, donc encore merci la sage-femme, parce que homéopathie à fond, c'était, enfin, il faut être hyper régulier, t'as pas le droit, enfin, moi par exemple, mes jours de repos, je me levais à 6h30 quand même, parce que c'est l'heure où je tirais. Donc, y a des dimanches matins, tu pètes un plomb, tu te dis, j'ai envie de rester au lit, quoi. Ma fille, pour une fois, elle dort et non, faut que je me lève pour aller mettre ses saletés de tétérelle et, enfin, voilà, quoi.
Oui, d'autant qu'on rappelle que t'as pas de relais.
Mais non, non, justement. Et puis, en général, c'est au moment où tu branches ton tire-lait, que t'as déjà fait 5 minutes, que ça fait ouin. Là, tu te dis, comment je fais, quoi? Mais c'est voilà, donc oui, à la reprise du boulot, j'étais entre 1,8 litre et 1,9 litre. Ça avait un petit peu baissé et j'avais plus que 3 tirages par jour. Mais en parallèle, je faisais aussi je stérilisais et je congelais pour le lactarium. En plus okay. de nourrir les filles.
Ouais, donc c'était devenu un job à plein temps, quoi.
Ouais,
tirer le lait, nourrir ton bébé, voilà, on sait que déjà un bébé à l'été, classiquement, c'est du temps plein. Et alors là, c'était triple job, quoi. Et alors, on comprend dans le discours de Luce que pour toi, ça a été une évidence de donner ton lait à Virginie et à Cléo. Pour toi, Virginie, est-ce que tu y avais pensé avant qu'elle te propose? Est-ce que c'est un truc... Dans le contraire, que tu n'avais pas imaginé une seconde que ta copine puisse te donner de son lait. Comment c'était dans ton esprit? Est-ce que déjà tu savais que ça existait, enfin qu'on pouvait se donner du lait comme ça entre amis, même si ce n'est pas autorisé
Je m'y étais pas intéressée vraiment, et puis je m'étais jamais dit que ma meilleure amie allait avoir du lait pour nourrir.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Un orphelinat, enfin en exagérant. Mais c'est vrai qu'après, quand je voyais que moi, vraiment, je trimais pour avoir... Parce que j'avais quand même j'avais des fuites de lait, alors qu'à Noa, j'en avais pas. Donc, j'avais quand même un peu plus de lait qu'à Noa. Mm-hmm. Et puis, je voyais Luce qui tirait, mais ça me rendait folle, en fait. Au début, j'étais dépitée. Alors, bon, après, on se valide. De toute façon, chaque corps est différent. Chaque personne a un allaitement qui est unique, en fait. Mais c'est vrai que du coup, je voyais mon amie, elle tirait. Je voyais tout le lait qui coulait dans les biberons là, et puis moi je voyais ça, il y avait 3 gouttes qui tombaient un coup de temps en temps. Je me suis dit, mais c'est fou comme la nature est mal faite.
Ouais,
mais après, ouais, c'est vrai qu'on a commencé à en parler. Au début, on avait dit ça, je pense qu'on a dit ça rigolant.
Oui, ouais.
Et puis après, on s'est dit, bah peut-être que finalement
ça va s'envisager,
c'est peut-être envisageable. En rigolant, on s'était dit peut-être qu'en allaitant les filles, si on mettait les filles au sein, peut-être qu'on, si jamais il y avait une des deux qui avait besoin de téter et que t'étais pas disponible, on s'était dit qu'on allait prendre la fille de l'autre pour la faire téter. C'était ça au départ. C'est marrant parce que tout nous, c'est, je trouve que ça, on se complète finalement dans nos allaitements, parce que il y en a une qui en fait trop et puis l'autre pas assez. Je me dis, bon, finalement, on a quand même trouvé un équilibre, même si c'est pas l'allaitement qu'on rêvait.
En plus, celle qui donne de trop n'arrive pas à mettre sa fille au sein, et celle qui arrive à la mettre au sein n'en a pas assez. Cherchez l'erreur.
Bon, alors, donc, du coup, là, tout le monde est nourri exclusivement au lait maternel.
jusqu'au 6 mois. Et puis là, on a, en fait, on a commencé les transitions. Alors, Cléo, elle est presque, c'est quasiment fini. Et moi, je commence la transition vers le lait en poudre pour Naïs parce que cet allaitement, au final, me pèse de plus en plus.
Bien sûr, on parle souvent de, on parle très souvent même du manque de lait que toi tu, alors du vrai ou faux manque de lait. Comme on n'a pas le, voyez
Oui.
le, enfin voyez la cause de ce manque de lait, on va parler de manque de lait, mais avec des guillemets, voilà, pour parce qu'on sait pas finalement si c'est un vrai manque de lait ou si c'est un trouble de succion ou autre qui fait que la lactation n'arrive pas à se mettre en route et à s'entretenir correctement. Mais en tout cas, ce entre guillemets manque de lait, on en parle régulièrement comme d'un souci. On a peur que les bébés grossissent pas assez. Et voilà, et c'est embêtant pour les mamans. Mais ce dont on parle moins, c'est du trop-plein de lait et qui peut être finalement tout aussi handicapant que le manque de lait. Alors comment tu l'as vécu, toi, Luce, ce trop-plein de lait? Quelle place ça a pris dans ta vie? Outre le fait que c'est trop cool parce que tu nourris je sais pas combien de prématurés et la fille
Voilà.
de ton ami aussi, et ça c'est trop beau, mais quand même.
Le fait de dire, bah déjà, c'est au début j'ai eu du mal parce que c'était compliqué avec la fatigue, le postpartum, tu as plein de choses à gérer, enfin voilà, c'était compliqué. Et moi, Virginie, elle me dit, mais tu te rends compte, tu nourris Cléo, tu nourris Naïs, c'est super ce que tu fais. Au début, t'es tellement la tête dans le guidon que tu te rends pas bien compte. Puis là, je me dis, bon, Naïs, elle va avoir 6 mois, elle est encore nourrie exclusivement lait maternel, même si on a commencé avec un biberon en poudre hier, quoi. Je me dis, bon, même si t'as pas fait comme t'as voulu, t'as quand même le résultat qui est là. Après, je me dis, j'ai de la chance au départ. Je me dis, ah, j'ai de la chance, je peux la nourrir, c'est génial et tout. Et petit à petit, ça devient une contrainte. Mais vraiment, parce que quand je dis, en fait, j'ai eu une réflexion de ma sœur qui a accouché 2 mois après moi et qui me dit, ah, mais parce que tu te relèves la nuit aussi pour le faire. Et là, je lui dis, mais en fait, la nuit, ça ne s'arrête pas. Je continue à produire mon lait la nuit. Et y a plein de gens comme ça qui me disaient, mais tu te lèves la nuit pour tirer ton lait? Ben oui, parce que je peux pas passer 8 heures sans tirer mon lait, en fait. Et dans la journée, quand tu as un truc à faire, en fait, tout est compté. Le dernier biberon, la couche propre, le dernier tirage de lait, combien de temps je sors, quand est-ce que je vais rentrer? Est-ce qu'en rentrant, il faudra que je tire mon lait? Mais s'il faut que je tire mon lait, mais que Naïs ait la faim, il faut que je lui donne le biberon avant pour pouvoir tirer mon lait tranquillement. Enfin, il y a eu un moment où tu vis ça un peu comme un sacerdoce, en fait. Tu te dis, j'ai obtenu le résultat que je voulais, mais ça demande une gestion, une gymnastique fabuleuse. Rien que le fait le lait que je tirais la nuit. Le matin, Virginie, elle rigolait. Je lui envoyais la photo des sacs de congélation que je préparais. Le matin, je congelais entre 800 millilitres et 1 litre de lait le matin de ce que j'avais tiré la nuit, quoi. Et tu te dis, ça devenait, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, même si on a essayé de contenir, hein. Enfin, on a essayé de contenir. On a contenu quand même. On a réussi à compenser pas mal de choses, mais c'est la fatigue, la logistique, l'exigence de la stérilisation et du don de lait,
C'était quoi le plus pesant? C'était la logistique que ça impliquait, donc cette espèce de charge mentale constante, tu vois, d'avoir toujours un truc à penser en plus de la gestion d'un nourrisson, tout simplement. Ou c'était ce côté où on peut se sentir un peu coincé, tu vois, en hyperlactation, parce que en effet, il y a ce truc de, ben, en fait, je voudrais bien ne pas tirer pendant 8 heures et dormir si éventuellement mon bébé dort et que j'ai de la chance, mais je ne peux pas. Et ça peut être assez oppressant. C'était quoi le plus dur des deux?
Il n'y avait pas de plus dur en fait parce que tu es tellement dedans que tu en fait tu subis. Vas-y.
Je pense, je reprends parce qu'elle est encore dedans en fait et elle se rend pas compte. Mais c'est la charge mentale, c'est sa charge mentale, c'était d'être dépendante de ce tire-lait, de voir toujours limite elle couchait avec en fait. Du coup, c'est je lui ai dit écoute, enfin on avait dit que quand ça te pesait trop, il fallait arrêter. Et là, je sentais quand elle m'a dit, enfin limite les larmes aux yeux à chaque fois, faut que je tire mon lait encore. Je lui ai dit écoute. Et là, c'est trop, en fait, il faut que... Je lui dis, t'as déjà donné beaucoup de toi. Je lui dis, essaye de voir pour arrêter. Déjà, on avait dit qu'on arrêterait. Enfin, en discutant entre nous, on avait dit, OK, s'il faut que j'arrête, j'arrêterai déjà en premier le lactarium. Et là, du coup, elle a arrêté le lactarium. Et déjà, elle a dit, je me sens déjà mieux. Je me sens déjà mieux. J'ai moins la stérilisation, etc., ce process... C'était très exigeant et là du fait que ça commence à vu qu'elle commence à faire une transition vers du lait en poudre, on commence Cléo elle en prend encore un petit peu de temps en temps, mais là ça y est, on commence à arrêter le don de lait qu'elle me fait aussi pour prioriser ce qu'on avait dit depuis le départ, c'est prioriser le lait pour Naïs.
Bien sûr. Ouais, et donc puis, c'était vraiment le trop plein en fait.
C'est puis c'est quelque chose au final que tu maîtrises pas vraiment.
Ouais.
Parce que bon, effectivement, quand j'ai repris le boulot, je m'en sortais au niveau des tirages, etc. Mais quelque part, c'est quelque chose que tu maîtrises pas vraiment puisque c'est tellement ton cerveau, il est tellement conditionné. T'entends des pleurs d'enfants, pouf, t'as une montée de lait. Alors, même si t'es à tes 3 tirages par jour, t'entends des pleurs d'enfants, t'as une montée de lait, quoi. Et là, tu te dis, ah. Moi, c'est un truc bête, mais je rentre du boulot le soir. Systématiquement, j'ai ma montée de lait sur le chemin du retour le soir. Systématiquement. Parce que je sais que je vais retrouver mon enfant, je sais que je vais retrouver mon bébé, qu'elle va sourire en me voyant et que je vais être contente de la prendre dans mes bras, de la bisouiller. Et voilà. Et en fait, c'est ça aussi qui est pesant, c'est que tu ne contrôles pas. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Ton cerveau, il contrôle pas. C'est un truc bête, hein, mais il y a eu une fois où le papa de ma fille m'a appelé, il me parlait. J'avais des montées de lait. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Je vais pas m'en sortir de ce truc. En fait, ce qui est pesant, c'est que t'as le nez dans le guidon, c'est hyper contraignant. Et il y a un moment, tu te dis, je vais jamais en voir le bout. Là, ça fait ça fait un mois que j'ai commencé vraiment à réduire.
Ouais.
Et je me dis, je vais pas en voir le bout, je ne sais pas. Je me dis, à un moment ou à l'autre, ça va me retomber dessus, il va falloir que je refasse des tirages. Là, ça fait 10 jours que je prends de l'aspirine et je tire encore 400 millilitres, quoi. Alors que en 4 jours, normalement, c'est plié, tu tires plus rien, quoi.
Ouais, t'as l'impression d'être un peu prisonnière de cette lactation.
C'est ça. Alors que je l'ai tellement voulu. Je l'ai tellement voulu. Je voulais nourrir ma fille. Même Charline, elle m'a dit... Oh, ça te tenait tellement à cœur de nourrir ta fille, de ta lactation, tout ça. Je lui dis oui, ça me tient à cœur. Et je suis convaincue que j'ai fait ce qu'il fallait et que c'était le meilleur pour mon bébé. Et que je me suis pas posé la question une seconde. Tu vois, le tire-lait à la maternité, ils m'ont dit, vous arrivez pas à la mettre. Soit vous la au sein, soit vous prenez le tire-lait, soit vous la nourrissez au lait artificiel. Je me suis pas posé la question une seconde, j'ai dit je veux mon tire-lait. Et à ce moment-là, il y avait je sais plus combien de mamans qui tiraient leur lait, donc il n'y avait pas de tire-lait à disposition. Je l'ai réclamé pendant 12 heures. À chaque fois qu'il y en avait une qui rentrait dans ma chambre, je veux un tire-lait avec une tétrelle. Ah oui, mais il est fort occupé. Je veux un tire-lait avec une tétrelle.
Et alors que là, t'as qu'une envie, c'est qu'il sorte de chez toi ce tire-lait, c'est ça?
Voilà. Ben là, en fait, j'en rigole parce que tout à l'heure, je dis à Virginie, t'as vu? J'ai rangé le tire-lait de telle façon.
Normalement, il est là, le tire-lait.
Ouais, normalement, il est là. Et en fait, je l'ai rangé de telle façon qu'il sort de mon champ de vision. Parce que je le supporte plus.
Et là, c'est quoi, du coup, l'avenir? C'est quoi, du coup, l'avenir pour toutes les deux? Toi, t'as envie que ça s'arrête, cette lactation. T'aimerais passer au lait artificiel et te libérer de cette contrainte du tire-lait, Luce?
Ben, me libérer de la contrainte du tire-lait. Après, je te dirais que j'ai encore un peu de stock congelé, donc pour l'instant, bon, je pense que j'en ai encore peut-être une semaine ou 10 jours, comme je tire encore un petit peu. Après, oui, c'est tout, on passera au lait artificiel, on a commencé la diversification, etc. Je me dis, bon, C'est déjà pas mal ce que j'ai fait, je pense.
Pas mal.
je me rends pas compte. Après, c'est vrai que quand je dis aux gens, j'ai commencé le don de lait pour le lactarium le 25 octobre. Ils sont venus le 5 décembre pour faire la première collecte. Il y avait déjà 10 litres de lait. Et ils sont revenus un mois plus tard. Il y en avait 30. Et 4 semaines plus tard, il y en avait de nouveau 16. Donc, en tout et pour tout, j'ai donné 56 litres au lactarium en 2 mois et demi de temps. Alors, tout le monde me dit « Oh ! Mais c'est énorme !» Oui, peut-être, mais je me rends pas compte en fait. C'est mon premier allaitement, c'est mon premier bébé. C'était le challenge, c'était de je voulais la nourrir. J'ai fait ce que j'ai pu et je me dis bon, c'est j'ai fait du mieux que j'ai pu.
Ah oui, mais là t'as pas fait que nourrir ta chouchoute, t'as nourri un nombre de bébés incalculable. Je sais plus ce que c'est le calcul à faire, mais avec tes 56 litres, voilà, t'as sauvé des vies.
Ben en fait. Je crois que c'est sur un de tes podcasts où elle disait, il y avait une dame de l'hôpital, du lactarium de Necker, où elle disait que pour sauver un prématuré qui naît aux limites de la prématurité jusqu'à ce qu'il puisse boire du lait en poudre, il faut 10 litres de lait maternel. Donc je me dis, j'ai sauvé 5 bébés et demi.
Ouais, 5 bébés et demi nés très, très, très prématurément.
Voilà, c'est ça. Donc après, c'est déjà pas mal. J'aurais au moins fait ça et c'est au moins une satisfaction. Même si je me rends pas vraiment compte de ce que ça peut représenter, mais c'est quand même une satisfaction de me dire que j'ai réussi à faire ça.
Peut-être avec du recul, tu te rendras mieux compte. Là, t'as encore un peu la tête dans le guidon. Mmh. Et toi, Virginie, quel regard tu portes sur tout ça?
J'ai évolué vis-à-vis de ça parce que j'ai deux allaitements, donc c'est... Je me dis que j'ai eu un peu plus de lait pour ma fille. J'en suis très heureuse et je suis très heureuse que Luce elle m'ait aidée parce que j'avais pas du tout eu cet espoir-là qu'on puisse nourrir ma fille avec un autre lait maternel. J'en suis très heureuse. Là, elle a 6 mois et 3 semaines bientôt et j'ai encore du lait. Alors c'est royal. Je me prends plus la tête. J'ai changé de. Disons que j'ai monté d'un étage et je me prends plus la tête sur les tisanes d'allaitement, le galactogil, tout ça, les amandes, enfin tous les produits que je me goinfrais pour essayer d'en avoir. J'ai moins de lait. Elle tète. Je pense que c'est plus des tétés de réconfort et puis voilà. J'ai levé le pied et puis faut que je me retrouve aussi un peu parce que alors contrairement à Luce, moi je grossis pendant l'allaitement. Donc là je commence à avoir du mal avec ma silhouette. Donc j'aimerais bien fondre un peu.
OK. Donc il est temps finalement un peu pour tout le monde pour des raisons radicalement différentes.
Oui.
Mais que ça s'arrête.
On a l'opposé. Oui. On a l'opposé. Oui.
Mais c'est vrai que se retrouver en tant que femme, c'est quelque chose que l'une et l'autre, on a besoin. Et avoir été là l'une pour l'autre aussi, ça a été important parce que je ne pense pas qu'on serait allé aussi loin l'une et l'autre dans notre allaitement si on n'avait pas été là l'une pour l'autre.
Ouais.
Que ça soit le mien ou le sien, voilà, c'est... On a eu quelques soirées en larmes au téléphone. Mais bon, on se dit, on l'a fait, quoi. Au moins, on l'a fait.
Ouais, pour des raisons totalement opposées, mais les difficultés étaient présentes des deux côtés et finalement, avoir en face quelqu'un qui vivait la situation que l'autre enviait presque a été une solution et pas un motif de jalousie ou d'envie, quoi.
Oui, ça c'est pas, on sait pas, ça a pas été comme ça. En fait, dès qu'il y avait une gêne d'un côté ou de l'autre, en fait, on en parlait tout de suite et du coup, c'est vachement plus simple au niveau communication, ça lève plein de barrières. Je remercie Luce quoi, d'être comme ça parce que moi ça m'aide beaucoup en fait de pouvoir parler comme ça, dire il y a quelque chose, ça me gêne, voilà j'ai ça, voilà, mais ça c'est important.
Il n'y a pas de non-dit entre vous.
Non.
Bah ou des fois je la laisse râler un peu.
Puis j'attends, puis elle revient, puis elle me dit « Ah, je voulais pas dire ça comme ça, mais j'avais besoin de râler. » Mais bah non, maintenant je la connais, donc ça va.
Vous êtes devenu un couple, Virginie, t'es en couple toi ?
Mais presque, on va dans les magasins, je te jure. Il y a une vendeuse la dernière fois, elle nous dit « Mais je comprends pas, Noah, donc son grand, il appelle la dame maman et vous, il vous appelle tata. » Ben, je dis « Oui, maman, tata. » Enfin, pour moi, il n'y avait pas de quiproquo. Et sa sœur, l'autre jour, nous dit « Ben, elle vous a pris pour un couple. » Oh, mais j'avais pas du tout pensé à ça, en fait.
Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous savez que vos chouchoutes, du coup, sont sœurs de lait et que dans certaines cultures, c'est aussi fort que le lien du sang ?
Oui, oui. Bah, ça y est, j'ai eu un petit Mais elle, Virginie, elle n'avait pas réalisé, mais moi, la dernière fois, je lui dis, oh, là, enfin, au tout début, je lui dis, nos filles vont être sœurs de lait, tu te rends compte, c'est génial. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, et je lui dis, mais enfin, moi, je connaissais, parce qu'en fait, j'ai une arrière-grand-mère, je crois, qui était nourrice, qui, quand elle avait des bébés, en allaitait plusieurs, et ma mère m'avait dit...
Ah, il y a un truc hein, dans ta famille, alors.
Eh ben apparemment, mais bon, c'est chez ma mère, c'était pas ça, mais chez nous, apparemment, oui, c'est. Mais j'ai une autre sœur qui a allaité longtemps, qui avait beaucoup de lait aussi. Enfin bref.
Donc t'avais connaissance de ça.
Ouais, voilà. Donc du coup, mais bon, pas à ce point-là. Hein. Là, 2,5 litres de lait, j'avoue. Apparemment, je suis dans les records. Hein. Et comment? Et oui, je lui dis, ben, nos filles sont sœurs de lait. Alors, des fois, je sais que ça la touche, mais enfin, elle est un peu réservée là-dessus. Alors, des fois, le soir, j'arrive, je dis, ah, mes filles, comment vous allez ? Et elle réagit pas, mais je sais que derrière, elle rigole à moitié.
Elle est super jolie, votre histoire. Vous vous attendiez à vivre un truc comme ça un jour avec l'allaitement ?
Pas du tout, parce que quand on s'est connus, on n'était pas du tout dans ces situations-là. Et...
Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Cette expérience d'allaitement, qu'est-ce qu'elle a changé individuellement chez vous ou ensemble ? Qu'est-ce que ça a fait évoluer ?
Moi, je pense ça a renforcé encore plus mon amitié avec Luce. C'est encore plus fort et du coup, moi, j'ai des problèmes d'exclusivité, hein, je l'avoue. Mais ouais, c'est encore plus fort et je suis tellement fière de... Puis en fait, comme tu dis, c'est unique en fait, donc notre histoire, c'est à nous, c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos filles. Et je suis fière, hein, je suis hyper fière et je suis reconnaissante. Je me dis, ben, c'est pas l'allaitement que je voulais, mais au final, celui-là, il est tout aussi bien, ça me va.
Il est joli, ouais.
Moi, ça m'a fait comprendre des choses parce que quand Virginie elle a eu Noah, j'étais pas maman et il y a des choses que je comprenais pas. Et quand on a eu la chance de vivre notre grossesse en même temps, puisque au final on se croisait chez la sage-femme, hein, on avait quasiment les mêmes dates, etc. Donc déjà on a eu la chance de vivre cette grossesse ensemble. Et après au niveau de l'allaitement, il y a tellement de choses que je me suis rappelée sur comment elle galérait avec Nono, etc. Et je me dis, oh là là, il y a plein de choses que je comprenais pas. Les tétés réconfort, tu vois, je comprenais pas ça. On m'en avait parlé, je disais, oh, c'est une connerie, enfin, c'est un caprice de gamin, etc. Enfin, tu vois, c'était... Il y a tellement de choses que tu comprends pas quand tu l'as pas vécu que... voilà. Après, je lui avais jamais rien dit hein, là-dessus. Elle vivait ce qu'elle avait envie de vivre. Et là, le fait d'avoir vécu cet allaitement-là de cette façon-là, moi aussi, je suis reconnaissante parce que franchement, si t'avais pas été là, je sais pas si j'aurais mené cet allaitement-là comme ça jusqu'au bout ou si j'aurais réussi à le mener comme ça. Arrête de pleurer. Et après, il y a beaucoup de choses que j'ai compris sur le positionnement par rapport à l'allaitement, sur la façon de faire avec tes enfants, sur tes choix, rien que sur les choix que tu fais. Et du coup, tu comprends en tant que parent l'approche. Tu remets plus en question. Tu te dis, ben voilà, il est parent, donc voilà, il fait ce qu'il y a de mieux, il fait de son mieux. Et c'est déjà tellement... Quand tu sais ce que ça représente, les efforts derrière... Et en fait, c'est parce que tu sais pas les efforts que ça représente derrière que tu comprends pas. Et ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Et puis, heureusement qu'elle était là de toute façon, parce que effectivement, pas avoir de relais, c'était juste une galère. Pour moi, c'est ma reconnaissance éternelle.
Vous avez chacune à votre façon été le relais de l'autre sur des plans différents.
Oui.
Ouais.
Ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que, si je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, mais en fait, Virginie est la nounou de ta fille, Luz, donc de Naïs.
Oui. En fait, je ne me voyais pas la confier à quelqu'un d'autre. Hein. On va être honnête. Parce que j'ai accouché et alors apparemment, j'aurais un côté un peu maman loup ou un truc comme ça, il paraît.
Une histoire de cordon un peu serré.
Voilà, apparemment, je serais incapable de laisser quelqu'un changer ma fille sans être à côté. Je comprends pas.
Ouais, ça arrive.
Bon, ça va un petit peu mieux maintenant, mais... et du coup, quand il a fallu que je reprenne le travail, je me voyais pas la confier à quelqu'un d'autre. C'était tellement déjà difficile de la laisser que... Me dire, mince, je la confie à quelqu'un que je connais pas. Après, je connaissais ses méthodes d'éducation, son approche de la parentalité et tout ça. Donc, ça me convenait parfaitement pour en avoir longuement discuté. Et du coup, c'était top, quoi. Mais bon, c'est ma nounou. Et je suis fière de le dire.
Donc Virginie garde Naïs, la nourrit avec le lait de Luce avec lequel elle nourrissait aussi sa fille. Bon bref, voilà, vous aurez compris que tout ça est un enchaînement de fils qui se tirent, se tendent et se détendent de l'une à l'autre. Je suis hyper touchée d'entendre votre témoignage, je le trouve hyper beau. En plus, je vous ai en visio en face de moi et voilà, vous êtes trop choute toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. Est-ce que je peux vous faire un peu mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte ?
Oui, vas-y, on y a réfléchi avant.
Si vous avez des trucs communs ou des trucs aux antithèses l'un de l'autre, on y va. C'est quoi la tétée la plus insolite ? Ou le tir allaitement le plus insolite ?
Ma tétée la plus insolite, c'était au mois d'août. Je devais aller faire l'état des lieux de l'appartement de ma nièce. Et Cléo avait allé 3 semaines. Et j'avais un monsieur qui était hyper énervé, hyper... parce que j'étais en retard et qu'il ne trouvait pas la procuration et tout ça. Et puis en fait, bah, j'avais Cléo qui pleurait en même temps. Elle avait faim. Donc du coup, j'ai fait... ma première tétée en sling au milieu d'un appartement, il y a un monsieur qui me regardait avec des gros yeux comme ça, dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je lui ai dit bah, je nourris mon enfant.
Ni plus ni moins. Et toi, Luce ?
Et moi, mon tir allaitement le plus insolite, c'était... Elle rigole parce qu'elle était là, en fait. On descendait, on avait pris une petite semaine de vacances dans le sud chez sa mère, donc on était 3 conducteurs. Donc, il fallait que je tire mon lait toutes les 6 heures. Donc, on avait 8 heures de route. Donc, en fait, sa maman reprenait le volant. Et moi, j'avais mon tire-lait portable dans la voiture. Donc, je tirais en même temps qu'elle conduisait. Et je me cachais sous un cache-nez parce que tu as les routiers qui sont au-dessus, en fait. Et donc, j'étais dans la voiture à 130 sur l'autoroute en train de tirer mon lait.
Ok, parfait. C'est quoi le truc le plus glamour qu'il vous a été donné de vivre durant l'allaitement ?
Le truc le plus glamour ?
Ça peut être ironique.
Alors, le truc le plus glamour, c'est une fin de tété où je me dis, tiens, si j'ouvrais les volets, là, j'ai ouvert les volets, les volets laissaient à l'air. Les voisins, ils étaient contents. J'ai complètement oublié de ranger.
De te rhabiller. Et toi, Luce ?
Le plus glamour du plus glamour, ça a été souvent quand je faisais mon tire-lait, c'est ce que je disais tout à l'heure, Naïs avait faim bien régulièrement à ce moment-là. Donc je me retrouvais en tailleur avec les tétrelles, donc j'avais une brassière, donc les tétrelles avec les jambes en tailleur, mon bébé dans le tailleur en train de lui donner le biberon, à rempoter le biberon parce que des fois il n'y en avait pas assez. Et c'est à ce moment-là que j'avais un caca atomique. Caca atomique. Ah ben oui, sinon c'est pas drôle. Puis alors, bébé allaité, caca atomique, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Ceux qui allaitent leurs enfants, ils comprennent. Et donc là, tu te retrouves à débrancher tes tétrelles, avec tes tétrelles sur les seins. Ton bébé, t'essayes de le tenir assez loin pour pas qu'il shoote dans les tétrelles.
Ah ouais.
Mais pas trop loin, parce que voilà, et tu vas changer ton bébé avec tes tétrelles, et puis t'essayes, et puis il faut que tu te relaves les mains avant de reprendre. Enfin, voilà, un tout.
Glamour.
Comme jamais, puis en plus, il faut que tu le changes intégralement, puisque ça a fui, bien sûr.
Ah oui. Et éventuellement que tu changes ton pantalon aussi, sur lequel il a débordé, parce que t'étais en
voilà, t'as tout compris. C'était extraordinaire.
Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, Virginie ?
Moi, j'aime bien aller t'allonger. C'est sur le côté, je suis bien. Je m'endors même des fois, c'est très bien.
Ok. Luce, si sur un site de rencontre, s'il y avait un site de rencontre de tire-lait, lequel tu choisirais ? C'est lequel le mieux ?
Un site de rencontre de tire-lait ? Après,
lequel tu mettrais dans ton panier ? Adopte un tire-lait, tu vois, tu prends
un. Ouais, adopte un tire-lait. Ben le Medela Symphony est bien car efficace, mais alors intransportable. Et moi, j'ai investi dans le Freestyle Flex de chez Medela. Et ouais, il est vraiment pas mal parce que celui-là, il m'a fait la semaine quand on est parti à Bordeaux.
Ok.
Et puis, il est compact, hein, ça fait une taille de télécommande de télé. Hein.
Super. Donc voilà, ouais. Elle vous recommande ça après. Essai de différents tire-laits. C'est celui-là qui l'emporte. Alors,
surtout pas qui tête, hein, parce que ça tête rien. Hein. Surtout pas.
Ça tête rien. Ok, si en un mot, vous pouviez me résumer. Alors, est-ce que vous voulez chacune me donner un mot pour cet allaitement ou est-ce que vous voulez m'en donner un commun ?
Je sais pas. Moi, j'aurais dit symbiosement.
Moi j'aurais dit chacun une parce qu'on l'a pas vécu du tout de la même façon.
Alors chacun un mot.
Moi le mien ce serait inattendu parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'avais rêvé mon allaitement d'une certaine façon et ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu malgré que j'ai quand même abouti à ce que je souhaitais quand même. Mais inattendu.
Okay. Moi j'aurais dit symbiose parce que voilà, je trouve qu'on s'est bien je trouve qu'on forme un tout et
une équipe
voilà, travail d'équipe et voilà.
Ouais, vous êtes une belle équipe les filles. Voilà, bah écoutez, je suis encore une fois merci beaucoup d'avoir livré votre expérience à Milkshaker. Si ça peut, je sais pas, d'une façon ou d'une autre, donner des idées à quelqu'un. Alors on rappelle que le don de lait entre amis n'est pas autorisé par la loi en France, donc à ne pas reproduire chez vous sans l'aide d'un professionnel, etc. Enfin, voilà, faites-vous accompagner si jamais l'aventure vous tente et que vous vous retrouvez dans une situation qui est similaire. On peut pas vous encourager à le faire, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous partager cette histoire. Et puis voilà, les filles sont venues à moi et je trouvais l'histoire trop belle et j'avais envie qu'elle soit entendue par le plus de monde possible. Donc voilà, merci beaucoup, merci pour les frissons, merci pour les yeux qui s'embuent un peu. Et puis je vous dis à très vite. Luce, tu nous raconteras comment tu mets fin à cette lactation de feu. Bon, on veut une petite milk letter le jour où ça s'arrête et que ça y est, tu
peux jour dire adieu au tire-lait. En fait.
Ah, ok. Ah, tu te relances direct. Ok, bon, ça ne s'arrête plus. Allez, on se quitte alors avant qu'elle se mette tout de suite au deuxième et que l'histoire reprenne. Et bah, peut-être que sûrement même qu'on se recroisera alors un de ces quatre dans Milkshaker. Merci beaucoup les filles de votre témoignage. Charlotte.
Merci à toi.
Et puis à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud. The voices in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. Guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Trust me, every time I have you back in, I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.